Le journal Jacques Molima.
Désormais, le ciment doit se vendre à 10 dollars. Les producteurs de ciment les livreront directement aux détaillants pour éviter toute spéculation. Une décision négociée ce jeudi à la satisfaction de toutes les parties. 5 ONG de défense des droits de l'homme du Katanga dénoncent et qualifient des précipitations. Le renvoi à 2 semaines au lieu d'un mois à l'audience de l'ex Mai Mai Gédéon par le tribunal. Militaire garnison de Kipushi, ces ONG craignent que les témoins ne puissent pas avoir le temps de se présenter. Joseph Kabila, toujours au Kasai Occidental, ce vendredi, le chef de l'État va assister à un office religieux en mémoire des victimes de l'accident de Kankenge. Hier, il a visité plusieurs sites de la province. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Dès la semaine prochaine, le sac de ciment gris devra être vendu à 10 dollars à Kinshasa. Le ministre de l'économie l'a annoncé ce jeudi au cours de la séance de travail qu'il a eue avec les cimentiers dans son cabinet. Selon Sylvain Bifouila, Silou et Sinat devront désormais distribuer leurs produits directement aux détaillants de dépôt à dépôt sans passer par les grossistes. Le ministre de l'économie est au micro de Jeff Ngoy.
Le ciment sera vendu à partir de la semaine prochaine.
À quel prix?
Sinat, comme Silou, ils vendent le ciment ou quand ils produisent le prix Exisine, ne dépasse pas 7 dollars. Et quand vous prenez le transport de Lukala ou de Kimpese, ici à Kinshasa, 1,5 $, ça vous arrive pratiquement à 8,5. Et comme ils avaient toujours l'habitude de vendre aux grossistes, eh bien, ce grossiste devait ajouter aussi 1 dollar. Ça faisait 9,5. Et maintenant, le revendeur devait ajouter aussi 1 dollar, c'est-à-dire moins de 6 000 ou pratiquement 6 000 francs congolais, le sac. Et maintenant que j'ai obligé à Sinat et Silou de vendre directement au dépositaire, le prix, ça ne dépassera pas 10,5 $. Et c'est en direct. J'ai suspendu, du moins jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, ce sont les petits détaillants-là qui vont être servis.
Les producteurs du ciment sont d'accord avec le ministre de l'économie et d'ailleurs c'est la décision finale qui a sanctionné la séance de travail d'hier au cabinet du ministre. Jean-Pierre Reynaud, directeur commercial de la cimenterie de la Lukala Silou en sigle, l'est dit au micro de Jeff Ngoy.
Les conclusions que nous sommes arrivés avec les autorités, c'est bien sûr un commun accord, hein. On ne va pas prendre d'une façon unilatérale l'un ou l'autre. Nous sommes des partenaires avec l'économie et nous sommes pour le bien de la République, hein. Il faut bien se dire qu'on ne va pas saboter la République et nous devons être dans les 5 travaux de notre président. Hein.
Est-ce que vous avez pu arrêter quelques critères de sélection en ce qui concerne l'importation du ciment?
Non, nous n'avons pas parlé de l'importation directement. Nous avons parlé surtout de la production locale à l'heure actuelle. N'oublions pas que la production locale est à peu près de 400 000 tonnes à la Silou et 150 000 tonnes à la Sinat. Et c'est d'abord ça en priorité. L'entretien, nous avons eu depuis ce matin.
Abondant dans le même sens que les producteurs, l'association des distributeurs du ciment au Congo accepte de respecter la baisse des prix dès la semaine prochaine. Quant à l'importation du ciment, il faut encore attendre des modalités pratiques envisagées par le gouvernement. La question de la révision du cadre institutionnel de régulation constitue la pomme de discorde entre le gouvernement et les opérateurs des télécommunications. Ces derniers avaient claqué la porte, vous le savez, aux états généraux en reprochant au gouvernement de refuser de l'abandonner. Et pourtant, cette question a été retenue lors des travaux préparatoires. Je vous propose de suivre Bob Toumba Matamba, président des opérateurs économiques du secteur des télécommunications, au micro de Nazaire Koko.
C'est à cause de ce point-là, à savoir le contenu de la révision de la loi, que pendant 5 ans, nous avons réclamé la refonte du cadre institutionnel. Mais comme apparemment l'administration des PD ne voulait pas refondre le cadre institutionnel, c'est-à-dire corriger la loi existante, mais plutôt procéder à la rédaction des mesures d'application.
Quel aspect de la loi actuelle ne vous plaît pas?
L'aspect capital, c'est l'identification d'une autorité de régulation forte, indépendante, et avec un rôle et des pouvoirs précis.
Cela n'est pas le cas.
Aujourd'hui, nous avons un régulateur morne, inopérant, qui n'a aucun pouvoir et qui n'a pas les moyens de sa politique.
Le secteur des télécommunications intervenait à la hauteur de tiers au niveau des recettes de l'État.
C'est-à-dire, quand l'État encaisse 100 dollars, 30 proviennent des télécommunications. D'abord de la manière fiscale, signifie à la Direction Générale des Impôts, et puis de manière parafiscale à la DGRAD qui collecte les fonds qui n'ont rien à voir avec la fiscalité, mais qui pendant l'année égrènent les taxes de l'État.
C'était Bob Tumba Matamba, président des opérateurs économiques du secteur des télécommunications au sein de la Fédération des entreprises du Congo. 5 ONG de défense des droits de l'homme œuvrant au Katanga expriment leur inquiétude face à ce qu'elles appellent la précipitation du tribunal militaire garnison de Kipushi. Elles l'ont fait savoir dans un communiqué signé au lendemain de la première audience du procès ministère public contre Kiungu Mutaga alias Gédéon. Ces ONG auraient souhaité que le tribunal renvoie la cause à au moins un mois au lieu de deux semaines décidées par cette instance judiciaire. Timothée Mbouya, vice-président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, section du Katanga, affirme que le collectif des avocats des victimes a besoin de ce temps pour s'organiser. Il est au micro de Paul Mounanga.
Les ONG trouvent qu'il y a effectivement de la précipitation en ce que le tribunal militaire de garnison de Kipushi, après avoir organisé le premier procès ou le procès introductif, n'a pas accédé aux demandes des parties, alors que les parties ont sollicité un temps raisonnable pour pouvoir se reconstituer les preuves ainsi que les témoignages. Laquelle précipitation risque de porter atteinte grave à l'issue normale du procès. D'ailleurs, c'est à juste titre que toutes les organisations de défense des droits de l'homme à la fois nationale et international salue encore l'organisation de ce procès. Donc nous disons que c'est une très bonne chose que ce procès soit organisé, mais c'est aussi une très bonne chose que les normes en matière de procédure pénale, à la fois interne et internationale, soient respectées. Parce que pour votre mémoire, pour votre rappel, les crimes pour lesquels Gédéon est poursuivi aujourd'hui sont des crimes d'une extrême gravité. Et donc, vous comprendrez pourquoi nous disons qu'on doit aller avec les choses de la manière la plus correcte possible.
En province orientale, à quelques 4 mois de la fin du mandat de l'association de coopération et de recherche pour le développement dans le Bazouili, les habitants de Bouta se disent non satisfaits du travail réalisé par cette ONG internationale sur terrain. Pour eux, la plupart des projets déposés pour le financement sont rejetés alors que l'argent est disponible. Omer Badiabali, député provincial du district du Bazouili, en vacances parlementaires à Bouta, affirme avoir reçu mercredi dernier les plaintes de sa base. Selon lui, Accor n'a pas d'impact socio-économique dans ce milieu. On l'écoute.
Nous sommes en train de faire des projections. Si on n'est pas fait en venant donner à un tel milieu, il n'y a pas un impact socio-économique, il n'y a pas d'évolution. Mais c'est statu quo, au contraire, les gens pleurent. Ça fait interpeller la conscience d'un élu du peuple. Même si on parle de l'investissement, quelqu'un qui fait, parce que nous avons des documents de DSRP qui répondent aux aspirations de la population. Il y a des priorités, il y a des urgences à faire.
Quelles sont les priorités, quelles sont les urgences à Bouta dans les Bazouélé?
Les routes en premier lieu, la santé en deuxième lieu, l'éducation, l'énergie, ainsi de suite. Il y en a beaucoup.
Est-ce qu'il y a des projets qui avaient été déposés dans ce sens auprès d'Accor pour être financés?
Tout à fait, ça n'a pas été accueilli. Pour des faits que moi j'ignore, ils ont été soumis à des contraintes injustifiées, à des projets injustifiés qui ne répondent pas à l'aspiration de la base.
Réagissant à ces propos, le responsable de l'ONG internationale Accor les a qualifiés de déniés de tout fondement. Jean-Marie Ilunga affirme que son ONG et son organisation non gouvernementale est bel et bien sur le terrain et qu'elle finance progressivement des projets sélectionnés conformément aux critères définis par sa hiérarchie. On l'écoute.
Non, c'est très faux. Nous sommes sur terrain, nous sommes en train de financer. Vous savez, même quand la Banque mondiale finance notre pays, on ne donne pas l'argent du coup, on les donne par tranche. Et justement, que lorsque nous finançons les différentes communautés, nous finançons par tranche. Comme pour le moment, nous sommes au 75e projet. Si là, on va encore financer 40 projets. Rejeter, c'est trop dire. Parce que nous avons différents critères pour les projets. On peut prendre des projets à caractère social, l'agriculture, l'élevage, ça va. Alors, il y a certains projets pour la destruction de la flore et faune, la scierie et consorts. Ça, on ne peut pas accepter. Mais les autres projets à caractère social, nous prenons, parce que nous sommes venus ici pour élever le niveau de vie de la population. Nous ne pouvons pas refuser les projets.
À noter que sur l'enveloppe globale de 1 250 000 $ destinée au financement des micro-projets dans le Bazouélé, Accor dit n'avoir dépensé jusque-là que 284 000 $. Pour le commissaire des districts du Bazouélé, l'appréciation de l'impact de cette ONG sur terrain dépend de chaque millier bénéficiaire. Dossier signé Jacques Moukonkolé. Au Maniema, l'OMS a rendu disponible pour la première fois l'artésinate amodiaquine, un médicament antipaludéen, dans cette zone de santé parmi les 18 de la province. Cette assistance fait suite aux chiffres très élevés du paludisme dans ces aires de santé. Selon le médecin épidémiologiste provincial, plus de 10 000 cas, dont 300 décès, ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année 2007. Le présent lot de médicaments qui est arrivé très tard ne couvrira que 3 mois de traitement. Le médecin épidémiologiste de l'OMS régional explique le pourquoi de ce délai. Luc Kishabongo est au micro de Tumba Mobile.
Bon, en fait, ce n'est pas vraiment un retard. Connaissons tous que le problème est crucial et il est général dans tous les pays. Mais pour ce qui est de la province, il y a eu des étapes préliminaires, il y a eu des activités avant cela, dont la formation des cadres des zones de santé qui devraient appliquer le nouveau protocole de traitement contre le paludisme. Ensuite, il y a eu la formation des laborantins, techniciens de laboratoire, et l'approvisionnement en réactifs des laboratoires pour l'hôpital de Kindu. Et c'est maintenant que nous sommes passés à l'étape de la distribution ou la remise des médicaments selon les nouveaux protocole. Et cela sera d'abord donné aux 7 zones de santé qui ont suivi la formation et nous espérons étendre ça à d'autres zones de santé pour la prochaine fois.
Le président de la République est encore à Kananga, au Kasaï occidental. Ce vendredi, Joseph Kabila va assister à un office religieux en mémoire des morts de l'accident ferroviaire de Kankenge. Hier jeudi, il a visité les chutes de Katende où il doit être érigé une centrale électrique. Toujours hier jeudi après-midi, le chef de l'État a rendu visite à plusieurs places publiques de Kananga. Reportage, André Kambala.
C'était aux environs de 9h du matin que le chef de l'État avait quitté Kananga pour Katende. La route entre Katende et Kananga, longue de 50 km. Sur place, Joseph Kabila a pris connaissance de la perspective de la construction d'un barrage hydroélectrique à ce site naturel. Après Katende, le président est revenu sur Kananga l'après-midi. Il a visité ensuite l'usine d'épuration d'eau de la régie des eaux et s'est rendu à l'hôpital général de référence de Kananga, là où nombreux rescapés de l'accident ferroviaire du 1er au 2 août dernier sont internés. Il est allé s'enquérir de l'évolution de leur prise en charge. Notons que l'hélico de la MONUC a ramené encore 9 blessés, ce qui porte à 21 le nombre de blessés nécessitant un traitement d'urgence. Joseph Kabila est au Kasaï occidental pour consoler les familles éprouvées de l'accident de Kakenge. Vendredi, il va assister à la messe de Requiem en mémoire de ses victimes de la catastrophe ferroviaire de Kakenge. Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Autre chose à présent, le monde a célébré hier jeudi 9 août la 13e journée internationale des populations autochtones. Cette année, le thème retenu est « Honorer la jeunesse autochtone, les langues et les sites sacrés autochtones ». À Goma, à travers leur association Programme d'intégration pour le développement du peuple pygmé, PIDEP en sigle, la communauté Bambouti du Nord Kivu s'est dit victime de l'insécurité qui les condamne à vivre en dehors de leurs milieux traditionnels. Ils ont fui depuis le mois de mai leur localité dans le territoire de Massissi à cause d'affrontements entre les éléments FRDC et des groupes armés. Ils se sont réfugiés à Chacha, à environ 60 km au sud de Goma, où ils disent vivre sans aucune assistance. PIDEP réclame le retour de la paix et la sécurité en province du Nord Kivu. Joseph Itongwa, directeur provincial de PIDEP, est au micro de Bernardin Nyangi.
On ne sait pas donner un message autre que celui de la paix dans notre province. Maintenant, nous venons d'enregistrer depuis le mois de mai 2007 plus de 150 familles autochtones pygmées qui ont fui à Bufamandu. Et ces familles sont installées à Chacha, dans des conditions très précaires. Nous avons d'ailleurs enregistré plus de 10 cas de malnutrition internés à Kiroche. Il y a 2 décès. Et face à cette situation, nous on fait aujourd'hui une interpellation, la communauté internationale, les autorités et toutes les autres parties prenantes à militer en faveur de l'établissement de la paix dans toutes les zones où il y a l'insécurité.
Toujours à l'est, Kobra Matata, leader du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI, a rencontré hier jeudi le commandant de la zone opérationnelle des FRDC en Ituri. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au quartier général de la MONUC à Bunia, Kobra Matata a confirmé l'adhésion sans condition des combattants de son mouvement au nouveau programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en cours. Cependant, il a demandé au numéro 1 des FRDC en Ituri, le général André Kinkela, de transmettre à l'état-major général des FARDC à Kinshasa des revendications de son mouvement relatives à la confirmation des grades d'officier d'une dizaine de ses collaborateurs. Rappelons que Kobra Matata est le seul membre de FRPI dont le grade de colonel est reconnu au sein de FARDC. Un mot sur la page internationale, la publication des résultats du deuxième tour des élections législatives hier à Brazzaville. Sans surprise, les PCT, Parti Congolais du Travail au pouvoir, et ses alliés se sont taillés la part du lion avec 123 députés élus contre 11 seulement pour l'opposition, dont 10 pour l'IPADS de l'ancien président Pascal Lissouba. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.